facile de réaliser un magazine d'actualité hebdomadaire sur ZEF quand l'actualité ne laisse aucun répit et les raisons pour lesquelles j'ai lancé des invitations aux personnes ici présentes ne sont déjà potentiellement plus d'actualité. Ceci étant, 7 mois après la création du NFP et après 7 mois de turbulence de politique française, recevoir les 4 formations locales des partis qui constituent la coalition de gauche a du sens au vu des récentes divergences affichées et des objectifs communs à maintenir, en premier lieu la lutte contre l'extrême droite. Alors, cette coalition, comment elle va ? Réponse dans la lorgnette. Bienvenue à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre, nous sommes en direct sur Studio ZEF, il est 17h et je reçois donc, comme indiqué dans mon introduction, les 4 formations de ce NFP, les 4 formations locales donc du Loir-et-Cher. Je commence à ma gauche avec Florent Gropart, bonjour.
Bonjour.
Co-secrétaire régional de Europe Écologie Les Verts. À côté de vous, Yvon Chéry, représentant de la France Insoumise au niveau départemental. Bonjour.
Bonjour.
Et puis vous avez aussi Lola Discord, donc représentante du Parti Socialiste, des jeunes socialistes ici présentes. Bonjour Lola.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Et le dernier invité donc représente le Parti Communiste départemental, Johan Elbori. Bonjour, vous êtes secrétaire de la section du PC de Blois. Bonjour.
C'est ça, bonjour.
On va parler un tout petit peu plus près du micro, Johan. N'hésitez pas à aller bouger si d'aventure, voilà, si vous étiez un peu loin. Merci donc à tous et à toutes d'être avec moi en studio. Donc j'avais lancé une invitation il y a quelques jours, maintenant une bonne semaine, pour parler de cette motion de censure passée, qui n'a pas été votée par le Parti Socialiste. Mais depuis, eh bien, on a un gouvernement qui s'autorise des sorties un petit peu étranges. Alors est-ce qu'elles le sont étrange, en l'occurrence on pourra se poser la question dans le cours de l'émission, mais qui ont a priori fait bouger les lignes donc de ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, notamment avec le dépôt d'une prochaine motion de censure qui aura lieu selon toute vraisemblance lundi prochain et donc qui sera peut-être ou pas votée, notamment par le Parti Socialiste qui avait refusé de voter la précédente. Donc voilà pour la remise en contexte du sujet. Est-ce qu'on peut commencer du coup par le Parti Socialiste, voilà le coupable idéal de cette situation au sein de la gauche. Est-ce qu'on peut remettre un peu de contexte donc sur ce qui s'est passé au sein du Parti Socialiste pour aboutir à ce rejet en fait de voter la motion de censure la semaine dernière?
Donc c'est pourquoi, et je me permets de préciser que je représenterai
Allez-y.
Les jeunes socialistes,
ouais.
Et non le Parti Socialiste.
Ça marche, pas de souci.
Local. Donc comment est-ce qu'on en arrive à ne pas voter une motion de censure ?
Et on a bien compris qu'il y avait eu beaucoup de dissensions au sein de la formation socialiste. Ouais.
Beaucoup de questionnements surtout, et également de dialogues, puisqu'on a eu tendance à le rappeler à de nombreuses reprises au sein du Parti Socialiste. Nous sommes un parti démocratique dans lequel nous votons lorsque nous prenons des décisions, notamment ici nationales. Donc en effet, on a pu s'interroger sur le fait de voter ou pas la motion, mais ce que l'on en retire et le positionnement que nous avons et que nous gardons, en tout cas pour l'instant, c'est de rester un parti qui est à même d'être dans la négociation, d'essayer justement de décrocher des victoires, petites victoires par petites victoires, pour essayer justement de faire avancer ce gouvernement, essayer de tendre vers une politique qui soit un tout petit peu de gauche.
Est-ce que le terme de petite victoire a satisfait les autres partis politiques qui étaient l'argument majeur de cette position tenue par le Parti Socialiste ? Quelqu'un veut prendre la parole ? Johan ?
Oui, alors nous, notre groupe a décidé d'une autre stratégie dans le cadre de cette motion de censure. On a décidé de voter la censure du gouvernement dans la mesure où on pense que à la fois la composition du gouvernement, le projet global qu'ils ont l'air de mettre en place et la continuité de toute façon avec ce qu'on a eu avant nous permettent pas d'estimer, enfin nous on estime qu'il n'y a rien à attendre d'un gouvernement de M. Bayrou dans tous les cas. Après on entend l'argument du Parti Socialiste d'aller essayer de négocier des choses. Bon, ils ont tenté, ils ont obtenu quelques petits points, mais nous, ça ne nous convient pas de manière générale. Et on sait très bien ce que cette politique qui va être mise en place sera, dans tous les cas. Et il nous semble que ce n'est pas légitime de leur donner la moindre légitimité. Voilà, en tout cas, de laisser penser qu'il y a des choses à attendre d'un gouvernement de ce type-là. Après, la motion de censure en elle-même, de toute façon, elle n'était pas... elle ne pouvait pas passer.
Il faut qu'on le rappelle, effectivement, les voix du Parti Socialiste n'auraient pas suffi à ce que...
Non, évidemment.
Après, mais c'était, j'imagine, l'idée d'un accord global qui prédomine.
Peut-être qu'elle était juste symbolique, mais parfois il y a des choses symboliques qui sont quand même assez importantes. Donc nous on regrette qu'il n'y ait pas eu un vote global de toutes les forces de cette motion de censure. Après on n'en fait pas non plus un casus belli de toute façon.
J'allais revenir sur cette petite latinade que vous avez sortie dans la presse locale au moment de vos vœux, qui c'était dans la Nouvelle République, le casus belli, j'allais revenir au-dessus. Le Parti communiste n'en fait pas un argument éliminatoire ou discriminatoire.
Non. Les discussions doivent continuer, le cadre d'union doit continuer. L'avenir du pays, c'est pas joué sur cette motion de censure qui, de toute façon, n'allait pas passer. Par contre, ça pose quand même un certain nombre de questions sur la cohérence de l'ensemble des forces
et la stratégie.
Stratégie globale.
On va y revenir. Yvon, on a beaucoup parlé de pièges et la France Insoumise aussi a beaucoup parlé de pièges sur ce refus, sur les éventuels concessions qui pouvaient être amenées par la recherche du Parti Socialiste. Est-ce que c'est un mot qui vous va et qui s'est avéré tout à fait cohérent et pertinent?
Oui, piège, ça va. Bérou n'est pas un enfant de cœur, c'est pas un perdreau de l'année. Donc piège, entourloupe, tout ça, ça nous convient et je les reprends à mon compte. Mais je crois que pour bien comprendre le positionnement et des uns et des autres, faut remonter un peu. Un tout petit peu plus loin, faut remonter aux premières lignes du programme NFP, qui engage en fait toutes les forces politiques. Et ces premières lignes du programme NFP, elles disent « Le NFP est constitué de femmes et d'hommes d'organisations politiques, syndicales, associatives et citoyennes, engagées ensemble sur un programme de rupture. » À partir du moment où on est engagé ensemble sur un programme de rupture, on n'est pas engagé sur un programme de conciliation. Donc moi, je ne vois pas, allez les filles, on ne voit pas comment on peut essayer de se marier et en même temps être en rupture. C'est deux choses absolument contradictoires, aussi bien sur le plan social, écologique et institutionnel. Donc il n'y a pas de surprise, le discours de Bérou n'était pas en rupture avec Barnier qu'on a tous censuré. Et là, concernant les petits pas, donc lundi, le budget, parce qu'aujourd'hui c'est la CMP et puis lundi c'est... la présentation du budget qui va résulter de la CMP.
Ouais.
Ce qu'on sait là, dans les dernières heures, c'est que les petits pas en question sont une illusion complète. Les 4000 postes d'enseignants supprimés par le Sénat, par un amendement du Sénat, s'ils reviennent dans la CMP, en face le gouvernement, les 4000 postes, c'est 50 millions d'euros annuels. En face, le gouvernement a prévu un amendement qui soustrait 50 millions d'euros du budget d'éducation nationale. Donc ce qu'ils donnent d'une main pour amuser les grands médias, etc., ils le reprennent de l'autre. Dernier exemple, c'est la même chose pour les 3 jours de carence pour les fonctionnaires, puisque les 3 jours de carence, c'est 250 millions d'euros. Et en face, il y a une restriction budgétaire de 800 millions d'euros, puisque l'indemnité journalière, quand on est en congé maladie et qu'on est fonctionnaire, va passer de 100% de remboursement à 90%. Donc en fait, c'est une entourloupe complète, c'est des faux petits pas, et face, comme mon collègue du PCF l'a dit, on sent bien que face à ce gouvernement, il n'y a rien à négocier, on est engagé sur un programme de rupture, donc ce programme, on le combat, on trompe personne, parce que quand on se fait élire sur un programme, on ne va pas négocier autre chose que le programme.
Lola voulait réagir.
Ah oui, c'était surtout pour préciser que la CMP, donc c'est une commission mixte paritaire. Puisque nous on a ce jargon-là, c'est parfait, mais je ne suis pas certaine que tout le monde l'ait, et ce serait bien aussi de rester compréhensible par toutes et tous, alors qu'on a déjà du mal à rester audible aujourd'hui dans les médias et même au quotidien lorsqu'on rencontre...
qui travaille actuellement au moment où on se parle effectivement encore sur les textes pour présenter un budget lundi, tout à fait. Les petites victoires que vous réclamiez, est-ce que vous avez l'impression là à l'heure actuelle qu'elles sont encore tenables?
Ces petites victoires sont de réelles défaites.
Lola.
Ces petites victoires, on essaie de les tenir. L'enjeu principal de cette motion, c'était la question de la réforme des retraites qui a mobilisé durant des semaines et des semaines. On n'a pas eu de suspension de cette réforme-là, mais rappelons quand même que pour la première fois, les partenaires sociaux vont être invités à débattre et à échanger sur le sujet pendant 3 mois. Je vois qu'il y a des réactions. Donc,
je vais laisser la parole à Florent juste après. Finissez, Lola. Ça, c'était un pas vers du mieux, quand même, de réaccueillir des discussions autour de cette réforme des retraites.
Évidemment. Mmh. Et on ne peut pas... le programme, rien que le programme, très bien. Évidemment qu'on a, à gauche, tous, la même intention. C'est fait élire sur un programme de fond. Mais à un moment donné, on ne peut pas rester sur un blocage institutionnel du pays indéfiniment. Et encore une fois, on n'a pas voté.
On va revenir sur le blocage, la stabilité.
Exactement. Etc. Et on n'a pas voté la motion lors du discours de politique générale. Mais ça ne signifie pas qu'on ne la votera pas si les négociations n'aboutissent pas.
Est-ce que malgré tout, avec la perspective de voter la prochaine, les prochaines, s'il en faut plusieurs pour faire tomber le NFP, Florent, est-ce que cette première faille dans le barrage NFP a constitué une rupture de la confiance et de l'alliance?
Je ne crois pas, pour plusieurs raisons. Ça n'a échappé à personne. Hein. On est des partis différents, mm-hmm. avec des stratégies différentes. Et là, c'est bien des stratégies dont il est question, plus que du fond d'ailleurs. Je pense que sur le fond, on réussit à se retrouver. Et quand on a construit le NFP et le programme en quelques jours, on a pu trouver des choses intéressantes sur le fond dans cette urgence-là. Par contre, sur la stratégie, évidemment, il y a des différences. Et moi, je ne mettrai pas du tout... Je vais pas critiquer ou donner des bons points sur telle ou telle stratégie. On a des stratégies différentes, dont acte.
Comment les accorder?
La question, c'est comment passer derrière. Moi, je pense qu'il y a une première chose, c'est déjà sanctuariser, en tout cas, le fait qu'on continue à travailler ensemble et à s'écouter et à se respecter. Et continuer à travailler ensemble, c'est se voir. C'est quand il y a des NFP, des réunions du NFP au niveau local, au niveau national, etc. C'est y être et y participer. Ça, c'est une première chose. Parce que sans ce lien-là, ce sera très dur de reconstruire. Et ce ne sera pas très crédible par rapport aux gens, de leur dire, en fait, on fait le NFP pour les élections et puis après, chacun son truc, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on continue à travailler ensemble. Sinon, ce ne sera pas crédible. On ne sera pas crédible. On aura besoin d'une NFP. Je rappelle que sans le NFP, chacun de nous, les uns comme les autres, on aurait eu beaucoup moins d'élus. Chacun.
C'est la coalition qui a permis un vrai engouement.
S'il y a quelque chose de sûr, c'est que cette coalition-là, on a failli gagner. On a été très proche. On a été quand même la première force en France. On n'a pas eu la majorité suffisante à l'Assemblée nationale, mais on a quand même été la première force en France aux dernières élections. Et cela, ça s'est fait parce qu'on avait cette dynamique de rassemblement. Sans cette dynamique de rassemblement, on sait ce qui se serait passé. Donc, il y a un moment donné, on en a besoin de cette dynamique et il faut la garder. Elle est précieuse et il faut garder sa crédibilité. C'est quelque chose d'important. Donc, éviter de se taper dessus ou de se... Bon. La deuxième chose, c'est sur le moment précis. Mm-hmm. On va le passer comme on peut. Parce qu'évidemment que les divergences sont importantes en termes de stratégie. Il est hors de question d'aller avec ce gouvernement de droite qui donne des signaux fachos à tire-larigot. Non, il faut faire des petits pas. C'est compliqué. Mmh. Il y a un jeu politique.
Un équilibre subtil.
Mais il faut le tenir. Mmh. Mais il faut le tenir parce qu'on n'a pas le choix et parce que la responsabilité derrière fait que, encore une fois, si on ne tient pas ça, si on ne tient pas ce rassemblement à minima, derrière, on sait ce qui se passe. Dans quelques années... Et ça peut arriver très très vite, c'est Le Pen au pouvoir. Mmh. Et ça, je pense qu'autour de la table, on est tous d'accord pour ne pas en vouloir.
Je crois que tout le monde sera d'accord. Johan, un petit
Oui, déjà, je remercie Florent d'avoir pointé quelque chose. C'est que, le NFP est une coalition, c'est pas un cadre, c'est un cadre d'union qui a été créé aussi dans une certaine forme d'urgence. C'est un cadre avec des formations qui sont différentes. Souvent, on entend, oui, il faut que la gauche vous alliez, etc., que vous soyez tous ensemble, etc. Oui, alors oui, mais on a quand même, si on a des groupes politiques différents, c'est aussi parce qu'on a des différences qui sont importantes, qu'elles soient sur le fond, sur le projet, sur le programme ou sur la stratégie. C'est quelque chose qu'il faut en permanence respecter et il faut construire avec ça. Alors, ça ne peut pas donner une coalition, elle se fait surtout sur des concessions, c'est-à-dire que, et sur une nécessité stratégique. Il y a des gens qui votent pour les Verts, pour la France Insoumise, pour le Parti Socialiste, pour le Parti Communiste, qui ne voteraient pas pour une autre formation que celle pour laquelle ils votent. Et ce cadre d'union, ça a permis de dire, voilà, on fait tous des concessions, on essaye de se mettre d'accord sur des points essentiels, et on essaye d'avancer ensemble tant qu'on le peut. Après, tant qu'on le peut, ça veut dire que ces différences qu'on a, elles continuent malgré tout d'exister. Et en fait, ce serait trahir... nos militants, notre électorat, à chacun de revenir complètement dessus. Alors là, dans le cadre que, enfin dans ce qui s'est passé récemment, il y a en effet des différences et qui nous interrogent tous. Et moi, je suis pas convaincu que les petits pas qui ont été obtenus. Bon, s'il y a des trucs bien, tant mieux, hein, mais je ne suis pas convaincu qu'il y en ait énormément et que, globalement, ça aille dans un sens, dans un bon sens. Pareil sur la réforme des retraites. Nous, on n'est pas contre la négociation. On est pour aller voir, on est pour aller discuter. Il n'y a pas de problème. Mais les gages qui ont été donnés par le gouvernement Bayrou, qui a essayé de nous mener un petit peu en bateau sur cette réforme des retraites, en disant « oui, peut-être qu'on peut peut-être la suspendre, avoir... sont pas on n'a pas eu des gages assez importants pour pouvoir se dire « bon, y a une marge de manœuvre sur cette question ». C'est pas le cas du tout. Et après, oui, ils vont recevoir les syndicats pendant X temps... Oui, bah, très bien. Après, nous, ce qui détermine un choix, c'est la réponse, pas le fait de discuter simplement. Après, on n'est pas contre négocier, si on peut, des choses. Mais bon, là, ça semble quand même un petit peu léger.
Je voudrais revenir sur un mot qui a été prononcé par Florent, il me semble, qui est le sens d'avoir le sens des responsabilités. Alors, c'est quoi d'avoir le sens des responsabilités au sein du Parti Socialiste, du PC, de ELV et de LFI? Je pense que le mot ne va pas avoir la même valeur.
Donc, moi, je vais bien répondre.
Alors, allez-y, Yvon.
Je pense qu'avoir le sens des responsabilités, c'est vouloir deux choses à la fois. Mm-hmm. C'est vouloir l'union des forces politiques syndicales. Et donc vouloir l'union et le rassemblement, comme Florent l'a dit, sans ce rassemblement, nous ne serions rien. Mais c'est vouloir ce rassemblement pour en faire quelque chose d'utile. Mm-hmm. Il ne s'agit pas de se rassembler pour se rassembler. Donc il faut se rassembler dans la fidélité au programme qu'on a construit ensemble. Donc en fait, nous nous sommes engagés à nous rassembler pour rompre avec le macronisme. Et les Français veulent l'union, ils veulent aussi la rupture. Donc la responsabilité, c'est de vouloir les deux à la fois. On s'est engagé sur un programme d'investissement social et écologique massif. Et aujourd'hui, le budget Bayrou, c'est 24 milliards de moins dans les dépenses sociales et écologiques. Donc on ne peut pas accepter 24 milliards. La concession annoncée au Parti Socialiste, c'est 480 millions sur 24 milliards. Donc c'est pas donnant-donnant. Hein. Voilà, donc... on ne va pas franchir cette étape comme ça, comme on peut. La semaine prochaine, il y a quelque chose de central, c'est le budget. Le budget, le vote du budget, c'est ce qui définit une politique. Est-ce qu'on tient compte de l'urgence sociale et écologique en servant l'intérêt des plus modestes, ou est-ce qu'on n'en tient pas compte en servant l'intérêt des plus riches? Donc il y a à trancher la semaine prochaine, et nous ne désespérons pas qu'on tranche tous ensemble, c'est-à-dire les quatre formations du NFP, pour dans le sens sur lequel on s'est déjà engagé. Donc nous, on a bon espoir pour la semaine prochaine que tout le monde votera la censure et que tous ceux qui se sont engagés dans un processus de rupture, même si c'est pour des raisons opposées aux nôtres, voteront la censure, que Bayrou va tomber et que c'est comme ça que la stabilité reviendra, parce que le chaos ne vient pas du NFP, le chaos vient de Macron.
C'est voilà, un des arguments aussi d'opposition entre les formations du NFP, c'est la question de la stabilité. Lola, comment percevoir aussi, hein, je pense que le mot a aussi des géométries variables de sens, au moins autant que le mot responsabilité au sein du NFP. Donc la stabilité, c'est un des arguments du Parti Socialiste pour cette volonté de ne pas censurer a priori. Est-ce qu'elle peut tenir, et notamment avec les dernières déclarations clairement orientées vers l'extrême droite de François Bayrou, qui pourrait, malgré des envies de stabilité, renvoyer le PS sur la position initiale du NFP?
Oui, maladresse de la part de Bayrou. C'est vrai que là, j'imagine que vous faites référence
au propos xénophobe, hein, qui parlait de sentiment de submersion migratoire.
Voilà, exactement. Donc le PS a vivement réagi, notamment par rapport à cette intervention-là. On voit que Bayrou, lui aussi, joue avec l'électorat d'extrême droite et les représentants de l'extrême droite. Le PS a été très clair sur cette ligne-là depuis le début, à partir du moment où il y aura cette séduction de cet extrême-là, ce sera très très compliqué pour nous de ne pas censurer. Amélie de Montchalin, qui est actuellement la ministre déléguée aux comptes publics, s'est également exprimée en avouant que le budget n'était pas un budget de compromis à aujourd'hui, et que s'il restait en l'état, il serait logique que le PS le censure. Donc,
alors pourquoi, pourquoi les tergiversations alors qu'on en revient quasiment au même point que avant la censure?
Mais au moins on essaye. On essaye. Okay. Et donc on parlait du sens des responsabilités, on parlait juste avant de rupture. Être en rupture, oui, mais on peut négocier tout en restant dans l'opposition. Ça, c'est notre ligne. C'est-à-dire, ok, on vous censure pas directement et on fait un pas vers vous. Faites-en également. À un moment donné, on est censé être capable d'échanger de manière constructive et entre forces de gauche et également avec l'opposition, puisque de toute manière, on a un gouvernement de droite. Et au-delà de ça, la gauche, enfin les médias, les attentes de manière générale sont beaucoup plus exigeantes envers la gauche et l'union de la gauche qu'envers les partis de droite.
Quelqu'un veut réagir, Joanne?
Oui, en fait, la question qui était posée, c'était sur la stabilité ou non. En fait, il faut se poser une question de manière générale. Est-ce que le pays n'est pas stable parce que depuis quelques mois, c'est, excusez-moi, le bordel à l'Assemblée nationale? Non, le pays n'est pas stable parce que ça fait des années, voire des dizaines d'années, qu'il est géré n'importe comment. On a une politique qui est mise en place contre le peuple français, contre les travailleurs. Nous, c'est cette stabilité-là qu'on pose comme question. On nous a dit que le pays était bloqué depuis la dernière motion de censure ou depuis les dernières législatives. Les 1300 milliards de dettes là, qu'on nous agite, par exemple, elles ont été creusées par le fait qu'on ait voté la censure il y a quelques semaines. Non, elles ont été creusées par des gens qui gèrent le pays n'importe comment. L'instabilité politique qui fait qu'aujourd'hui il y a une tension entre les gens de ce pays et qui amène à des résultats électoraux qu'on connaît. Est-ce qu'elle a été créée par le fait qu'on vote la motion de censure ou par le fait que... Non, elle a été créée par les gens qui sont en place, entretenu un ressenti contre le monde politique, contre le fait qu'on puisse changer les choses dans ce pays depuis des années. Donc, oui, c'est l'argument en permanence de dire « vous avez mis le bazar et maintenant on est bloqué ». Déjà, d'une part, c'est pas nous qui avons fait la dissolution au mois de juin, elle n'était pas obligatoire. Deuxièmement, c'est pas nous qui sommes responsables des conséquences de cette dissolution. C'est la politique qui est menée par Macron, par ses divers gouvernements et de manière plus générale par le système capitaliste ces gens-là défendent. Donc nous, on est les représentants, alors avec les différences qu'on évoquait tout à l'heure, mais en tout cas, on porte un programme de rupture, et un programme de rupture, c'est pas pour mettre le bazar, c'est justement un programme qui porte des propositions pour que le pays soit stable, des propositions économiques, des propositions sociales, écologiques, etc. Donc on se sent pas responsable de l'instabilité, on se sent pas responsable de la future instabilité qu'il y aura dans les prochains mois, puisque on ne peut pas revoter tout de suite de manière...
Ce sera à minima au mois de juillet.
Oui,
plus probablement plutôt à la rentrée.
Même à la rentrée,
façon,
et si ça a lieu.
Au mieux. mais d'accord.
On ne le sait même pas. Mais c'est pas parce que le pays a été mis dans cette situation-là par des gens qui ne sont pas nous que nous devons céder à tout leur chantage et les laisser en place et les laisser aussi bien gérer que ce qu'ils ont été capables de faire jusqu'à maintenant dans les prochaines semaines. Donc il y aura, et après les déclarations de M. Bayrou, alors qu'il le pense ou qu'il le fasse par opportunisme électoral vis-à-vis d'un certain, d'une certaine tendance politique, je ne sais pas, mais j'ai tendance à dire que ça ne change rien. En fait, ces gens-là jettent de l'huile sur le feu en permanence, c'est eux qui le font ça. Donc il y aura probablement d'autres motions de censure, on verra qui la vote pas, on verra si elle aboutit ou pas, mais en tout cas, je pense pas qu'on puisse reprocher aux forces du NFP, de la gauche de manière générale, d'être responsable de l'instabilité qu'on connaît.
Florent, vous vouliez rajouter quelque chose et on fait une petite pause après.
Moi, je crois qu'il y a un vrai fantasme de Macron qui est devenu un déni de démocratie, c'est-à-dire essayer de faire croire qu'on fait de la démocratie avec seulement les démocrates en France. Alors qu'il y a 30% de lepénistes à l'Assemblée nationale. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Il va falloir qu'il se rende compte que s'il veut faire de la démocratie avec les démocrates, à ce moment-là, il faut qu'il donne les manettes à la gauche, parce qu'elle a gagné sur ce registre-là. Et que s'il ne veut pas le faire, à ce moment-là, il est automatiquement pris par l'extrême droite. Et il ne va faire que la politique de l'extrême droite. Et donc, il faut qu'il sorte de ce déni de démocratie. On ne peut pas le faire pour lui, c'est lui qui a cette manette-là.
On revient dans un instant après une petite pause et on reprend la discussion avec les quatre formations locales du Nouveau Front Populaire. A tout de suite.
Au départ, un homme, une rose à la main. Elle cabache au placard la Bastille, la pluie qui vient. Au départ, la guillotine au panier. Il aurait dit quelle histoire, 5e semaine de congé. Au départ, tu sais, c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis la rigueur, et puis les mots qui blessent, les tensions. Moi c'est moi, et lui c'est lui, et la cohabitation. Au départ, c'est toujours le mois de mai. Écharpe rouge et chapeau noir, la lettre à tous les Français. Au départ, désaccord à Matignon, RMI, Michel Rocard, les affiches Génération. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux, j'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis au bord du canal, un premier mai sans raison, nos amours se tirent une balle et la cohabitation. Au départ, odeur de gaz et de poudre. Les matraques à Saint-Bernard, j'ai décidé de dissoudre. Au départ, c'est tout beau, c'est tout pluriel. 35 heures et ça repart, c'est les mariages arc-en-ciel. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis 21 avril, coup de tonnerre, de canon. Nos amours qui se défient, fin de cohabitation. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis 21 avril, coup de tonnerre, de canon. Nos amours qui se défient, fin de cohabitation. Au départ, un homme, une rose à la main. Au départ, la Bastille, la pluie qui vient. Au départ, c'est toujours le mois de mai.
au départ, au départ, la lettre à tous les Français.
Magnifique chanson d'amour et chanson politique par l'excellent Alex Baupin, pardon, une histoire d'amour naissante puis mourante qui dresse le parallèle avec l'espoir puis le désespoir suscité par la gauche depuis 40 ans. C'était donc Alex Baupin avec Au départ, pertinente il me semble dans le contexte. Nous sommes donc de retour en direct dans la lorgnette avec les quatre formations locales du Nouveau Front Populaire. Je vais vous passer la recommandation de la semaine, comme chaque semaine. La lorgnette vous propose un podcast, une émission, une vidéo d'un documenté qui revient sur le sujet et notamment sur les différences stratégiques qui ont lieu en cours en ce moment au sein du NFP. On écoute donc cette vidéo du journal du site web en ligne d'information générale Blast.
Le désaccord entre le PS et les Insoumis n'est pas un désaccord de fond ou de politique à mener, mais un désaccord bien plus important, mais moins grave. C'est un désaccord stratégique. Comment faire pour reprendre le pouvoir ? En démocratie, perdre le pouvoir et ne pas le regagner, c'est avouer au fond que son programme ne correspond pas à celui d'une majorité du peuple, critère qui reste central pour tout démocrate. Le désaccord repose donc sur la méthode à employer pour faire en sorte que le maximum de propositions favorables au NFP arrivent au pouvoir. S'éloignant de leur traditionnelle réserve en matière de stratégie, les Insoumis ont esquissé leurs éléments d'analyse de la situation. Pour eux, le danger n'est pas en soi que le PS ne vote pas la censure. Le danger de cette non-censure, c'est qu'elle donne à Bayrou une marge de manœuvre stratégique.
Mais il y a une chose qui m'inquiète dans la déclaration d'Olivier Faure. Il explique qu'il va attendre le PLF, le PLFSS et un hypothétique troisième texte budgétaire qui, à mon avis, ne viendra pas et qui est, comme la suspension de la réforme des retraites, un hameçon pour accrocher le Parti socialiste, pour déterminer son choix. Eh bien, dans ces cas-là, je vais vous dire ce qui va se passer s'il fait ça. Le scénario, ça sera que au moment où le gouvernement peut être censuré sur une ligne de gauche, il ne le sera pas. Ce gouvernement, M. Bayrou, va s'appuyer sur d'autres groupes, notamment le RN, pour passer ce qu'annonce ce week-end M. Retailleau, c'est-à-dire suppression, ou en tout cas baisse de l'AME, plus diverses dispositions. Voilà pourquoi, va laisser vivre le Parti socialiste s'il ne vote pas la censure.
Éric Coquerel s'inquiète ainsi que la béquille socialiste permette à Bayrou de gagner du temps sur le budget pour pivoter en fin d'année vers des thèmes beaucoup plus favorables à l'extrême droite. Il naviguerait entre les alliances, pivotant sa politique au besoin. Pour les Insoumis, le détachement du PS est ainsi un double risque. Marquer la dislocation du NFP, mais aussi permettre à long terme au RN et à la Macronie d'être en terrain favorable. Les socialistes ne croient pas en ce scénario. On ne peut faire que des suppositions étant donné qu'ils n'ont pas révélé leur analyse. En revanche, il y a quelques indices pour nous aider, comme leur volonté de ne pas censurer immédiatement le gouvernement. Cela montre qu'ils sont pressés d'être vus comme un parti responsable, comme une formation capable d'être au gouvernement, capable de rassembler au-delà de son camp. Les socialistes semblent croire que le RN ne voudra pas attendre longtemps avant de pousser la situation à la dissolution pour espérer gagner des législatives. Le PS veut être en mesure de montrer que la gauche peut être sérieuse et responsable.
On en revient à ce mot de responsabilité toujours et encore. Des réactions donc à cette vidéo donc issue du site en ligne, du très bon site en ligne Blast. Bon, autour de la table. Bon, Yvon, allez-y.
Il y a deux choses que je retiens de cette vidéo, c'est l'idée de gagner du temps. Mm-hmm. Alors ça, c'est la stratégie de Macron depuis longtemps. Macron gagne du temps, il a gagné du temps avec les Gilets jaunes, avec le grand débat. Il gagne du temps comme ça, de toutes sortes de façons, avec des conventions sur le climat dont il ne tient aucun compte. Donc il gagne du temps maintenant en se faisant semblant d'ouvrir des négociations. Et au début de notre entretien, j'ai montré qu'en fait, quand il lâchait 470 millions, en fait, il reprenait 9 milliards. Donc en fait, gagner du temps, c'est la stratégie pour pouvoir continuer à appliquer à long terme la même politique, c'est-à-dire ultra-libérale, contre le social et contre l'écologie. Donc ça, c'est clair. D'autre part, une deuxième chose qui me frappe aussi, c'est que puisque dans le fond, ils n'ont pas l'intention de céder sur les retraites, par exemple. S'ils avaient eu l'intention de céder sur les retraites, ils auraient laissé voter le Parlement en novembre lors de la Liche parlementaire et les filles. Ils n'ont pas laissé parce qu'ils n'ont pas l'intention de céder. Ils ont l'intention de passer à un autre régime de retraite par points, par répartition, etc. Ils n'ont pas cette intention-là. Sur le budget, ils n'ont aucune intention de faire autre chose que leur politique. Macron l'a confirmé lors de ses vœux. Par exemple, c'est lui qui donne la ligne. Et donc, comme forcément le PS va finir par censurer le gouvernement, parce qu'à un certain moment, il va être éclatant que socialement, le budget de Macron n'est pas défendable par une force de gauche, quelle qu'elle soit, il faut donc se tourner vers l'extrême droite. Donc, dernière chose, c'est pour ça que la sortie de Bayrou est tout sauf un dérapage et une surprise. C'est une donnée stratégique pour espérer que la semaine prochaine, les autres, c'est-à-dire le RN, ne s'en censure pas. C'est pas par hasard que Bayrou dit ça. Il suffit de se souvenir que quand on a Darmanin et Retailleau dans un gouvernement, c'est-à-dire un couple infernal à la justice et à l'intérieur, on est, même si on s'appelle Bayrou, profondément d'extrême droite, parce que si Bayrou n'était pas d'extrême droite, il n'aurait pas choisi ces ministres-là.
Est-ce que vous avez l'impression au PS d'être pris au piège, notamment avec ces dernières déclarations, mais voilà, de rajouter du sable dans le sablier?
Pris au piège, je ne sais pas. Après, il faudrait déjà qu'on fasse attention aux mots qu'on emploie, aux amalgames qu'on peut faire. Le président de la République n'est pas le Premier ministre. Ce qui s'est passé en novembre, on était sur un autre gouvernement. Juste qu'on essaie de remettre de l'ordre, qu'on n'apporte pas encore plus d'illisibilité à la situation politique actuelle, par pitié. Et au-delà de ça, ce qui est assez intéressant, il y a un sondage qui est sorti il y a 2 jours pour Odoxa, qui évoque que 77% des sympathisants de gauche considèrent qu'il faudrait essayer de trouver des terrains d'entente avec le gouvernement pour essayer d'obtenir des résultats. Et ça, c'est un message qui est adressé à la gauche. C'est là aussi où le PS a peut-être une stratégie différente, non pas de s'exclure du nouveau Front populaire comme ça nous a été incombé à plusieurs reprises. On parle du sens des responsabilités, mais encore une fois, faisons attention aux mots que nous employons, parce qu'à un moment donné, ça fragmente et ça fragilise aussi nos sympathisants. Et
allez-y, oui, pour finir.
Allez-y. Et c'est aussi intéressant de dire que là, dans l'extrait de Blast, donc la France Insoumise savait apparemment que le PS donc n'allait pas voter la censure, que c'était pas si grave en soi parce qu'il la voterait après. Bon, dans ce cas, épargnons-nous des guerres internes entre le NFP. Et enfin, je veux dire, on s'y perd. Et à un moment donné, oui, on la votera peut-être. Tout n'est pas ancré.
Ça me permet de faire un pont. Il faut qu'on glisse gentiment vers la fin de la conversation. Voter la censure lundi avec l'intégralité du NFP. Pourquoi faire si le RN ne la vote pas? Florent, par exemple. Près du micro, s'il vous plaît.
Oui, moi je voulais revenir sur une chose, c'est sur le mot de Bayrou. Mm-hmm. Je pense qu'il est assez historique qu'une personne dite du centre sortent une connerie pareille. Et je ferai un peu le lien avec le geste d'Elon Musk. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des appels vers les populistes aujourd'hui. Et il faut absolument qu'on les dénonce, ces appels-là. Parce que ces appels-là nous font mettre la main dans un truc qu'on ne contrôlera pas et qui va abîmer profondément la démocratie. Et je pense qu'il y a quand on parle de responsabilité, il y a, au-delà des sondages, etc., il y a une démocratie en France. Il faut qu'on y fasse attention, qui est très très mal menée par les gouvernements successifs qu'on a eus, par le président qui est de façon hallucinante en plein déni depuis déjà pas mal d'années. Et il faut que nous, on fasse très très attention à cela. Et il faut qu'on nomme les choses. Ce qu'a fait Bayrou est absolument impardonnable. Et il, à minima, il doit s'excuser de ça.
Il n'a pas l'air parti pour, hein, mais bref.
Oui, non, comme tu le disais, Yvon, c'est pas un jeune de 30 ans qui fait un truc comme ça sans savoir ce qui se passe, sans avoir le background. C'est quelqu'un qui est dans le milieu politique depuis 50 balais, qui sait exactement ce que signifie une parole et un geste. Et là, il a fait un appel très clair du pied à l'extrême droite, et on ne doit pas admettre ça.
Et donc, parce que Florent, vous n'avez pas répondu à ma question, je la transfère à Johan.
Je ne veux pas rebondir sur ce qu'a dit Florent, puisque je pense que là-dessus, on est d'accord. La motion de censure, pourquoi la voter pour pas, enfin, pourquoi pas la voter?
Si l'appel du pied, hein, voilà, mais voilà. Ça fait écho à ce que vient de dire Florent, évidemment. Si l'appel du pied a été fait au RN, qui ne la votera pas, pourquoi la voter?
Mais en fait, il n'y a pas. Bon, évidemment, si le RN ne la vote pas, elle ne passera pas. Ça,
tout le monde est d'accord.
Ça, on n'est pas dupe de ça. Pourquoi la voter dans ce cas-là? Parce qu'on pourrait se dire que ça sert à rien. Alors, ça sert à rien au niveau politique de manière générale ou au niveau institutionnel, certes. Mais,
ça va montrer la cohérence du bloc, vous allez...
Complètement. Il y a... on parle depuis tout à l'heure de responsabilité, de est-ce qu'on peut trouver des terrains d'entente avec ce gouvernement, etc. Et en fait, on arrive à la conclusion que ça va être plus que compliqué. Et les mots de Bayrou cette semaine le montrent bien aussi. Il y a deux choses. Nous, on n'est pas contre négocier ou être dans le jeu institutionnel. D'ailleurs, on a des députés dans un Parlement qui ne nous est pas exclusivement favorable. On participe au débat parlementaire, on dépose des amendements. On est dans le jeu institutionnel de fait et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, se dire qu'il y a ce cadre-là n'empêche pas d'éviter d'être naïf d'éviter de faire croire aux gens en fait qu'ils pourraient l'être. On a un gouvernement qui ne va pas dans le sens de l'intérêt des travailleurs du pays, de l'intérêt du peuple du pays. On le sait, c'est clair. Et à ce moment-là, il faut le dire et l'affirmer de manière cohérente.
Alors, la motion de censure permettra de l'affirmer.
Ils peuvent faire des concessions même sur des petits points qui ne sont pas inintéressants et qui en soi pourraient être bons à prendre.
Cette logique du compromis que le PS a dû mettre en
place. Ça, on ne le met pas en doute. Tout gouvernement dans l'histoire, partout dans le monde, est capable de faire des petites concessions à ses oppositions. Mais par contre, à un moment donné, il faut poser les choses clairement, avoir un discours qui soit audible pour la population et pour les gens qui ont voté pour nous, et encore plus pour ceux qui ne l'ont pas fait, de dire, bah voilà, en fait, non, ce gouvernement ne nous sert pas de manière globale, malgré quelques miettes, et il n'y a pas d'autre choix que de le censurer pour avoir une prise de position contre lui qui soit claire, nette, et qui permette après de construire, puisque là, l'intérêt, c'est pas nous de... Enfin, quand je dis nous, c'est nous tous, hein, de faire rentrer quelqu'un au gouvernement ou d'arracher un petit truc. Ce sera au pire compliqué, enfin, au mieux compliqué, au pire impossible. Donc là, l'enjeu pour nous, c'est la construction d'après ce gouvernement, d'après Macron, d'après. Donc, dans cette perspective de construction, on a un besoin de clarté. Donc, il faudra voter cette motion de censure, même si, on le sait, elle ne passera pas.
Yvan.
Ouais. Pourquoi voter la censure? On vote la censure indépendamment du fait de savoir ce que voteront les autres. C'est-à-dire on vote la censure par respect de soi-même, par respect de ses engagements vis-à-vis des électeurs, par respect du programme grâce auquel on a été tous ensemble élus. Voilà. Et concernant le RN, il n'est pas dit qu'ils ne le voteront pas. Parce que l'espoir de Bayrou, c'est qu'avec ses propos dégueulasses, il va tenir le RN. Mais le RN, il est aussi tenu par ses électeurs. Mmh. Et ses électeurs...
Qui ont envie d'un budget
parce que la collègue du Parti Socialiste vient de dire que 70% des Français voulaient la discussion. Mais il y a autant de Français qui veulent le départ de Macron. Mmh. C'est-à-dire, en fait, ils veulent le départ de Macron pour qu'on discute sur des bases de gauche. Voilà. Et sur des bases écologiques. Ils veulent pas le départ de Macron pour qu'on fasse du Macron et qu'on discute de Macron et avec Macron. Donc, en fait, ils veulent les deux choses à la fois. Et il n'y a pas à avoir peur d'une censure et d'emporter la censure. Parce que là, on a eu 4 gouvernements en un an. À un certain moment, il n'y aura plus personne pour aller au gouvernement s'il est censuré tous les 2 mois. Donc, le départ de Bayrou signifiera la nécessité de revenir devant les électeurs. Parce qu'à la fin, c'est les électeurs qui doivent trancher et le plus rapidement possible.
Ça me permet de faire un pont, un petit tour de table sur... Lola, vous vouliez rajouter quelque chose ou pas spécialement?
Oui, juste une précision. Là, le RN menace de voter aussi la motion. D'accord. Après, on va voir comment est-ce qu'ils vont jouer aussi durant les prochaines heures et les prochains jours. Ouais. Et au-delà de ça, ce qui était aussi intéressant, on peut critiquer la position du PS. Il n'y a pas de souci là-dessus. Encore une fois, on peut discuter avec grand plaisir. Mais rappelons-nous quand même qu'on a été biberonnés depuis des mois, voire des années, avec le fait que dès qu'un parti de gauche s'exprime, on est réduit à l'extrême gauche. alors qu'ici, autour de cette table, il n'y a pas un seul parti d'extrême gauche, le Conseil d'État a statué.
C'est bien de
rappeler. On peut avoir des désaccords avec la France Insoumise, il n'y a pas de souci, encore une fois, ce sera avec grand plaisir.
Et vous en avez, et vous ne les cachez
pas. Bien sûr, et c'est sain. Mais il y avait aussi ce besoin de casser cette image-là, cette image qui est complètement fausse, c'est-à-dire que la gauche, ce n'est pas l'extrême gauche. Aucunement. Et par contre, le RN, c'est bien l'extrême droite. Là-dessus. On est plutôt tous d'accord.
Est-ce que l'effet de dire que le nouveau Front populaire n'est pas d'extrême gauche, mais de chercher à sans en sortir, mais voilà, ce fil ténu là qu'on essaye de décrire avec des mots précis depuis 40 minutes, n'a pas l'effet inverse, justement, de qualifier entre une gauche raisonnable, respectable, et une extrême gauche qui serait, encore une fois, bordélisatrice, comme on veut bien l'entendre dans les grands médias.
Mais là, la gauche, elle se rassemble sur le terrain aussi, pas seulement dans les discussions entre formations politiques. Et la différence entre nous, elle se fait dans nos engagements sur le terrain. Par exemple, le samedi 8 prochain, le samedi 8 à Saint-Laurent-Nouan, il va y avoir une manifestation contre l'extension du golfe des Bordes, 150 hectares artificialisés.
Merci pour la permission de la.
Eh bien, moi, je souhaite que, étant donné le programme qu'on a signé ensemble et sur lequel on s'est engagé, qui comportait notamment des investissements écologiques majeurs, eh bien, que l'ensemble de la gauche soit à la manif contre l'extension du golfe des Bordes.
Et puis après, encore une fois, ça veut dire quoi, bordéliser le pays ? Qui a bordélisé le pays depuis un an ? Est-ce que c'est nous ? Non. J'ai pas l'impression que les forces qui sont, en tout cas celles qui sont présentées ici, aient un programme particulièrement bordélisateur.
De chaos, ouais.
On a un programme de construction. Après, bah, on accepte que des gens ne soient pas d'accord avec. Et nous-mêmes, on peut avoir des fois des critiques, puisque c'est un programme, de, comme on disait tout à l'heure, d'union qui a été fait. Mais le programme du NFP, c'est quand même un programme qui est très raisonnable. Puisque Macron, le gouvernement, agite en permanence, les grands médias, que si on le met en place, ça va être terrible et qu'il va y avoir des nuées de sauterelles et je ne sais quoi. Il s'agit de le relire, en fait, ce programme. Il est quand même très raisonnable, il offre des perspectives de construction, mais quand on qualifie celui-ci d'extrémiste ou de violent ou je ne sais quoi, c'est profondément malhonnête, je ne sais même plus si c'est le terme. Quoi.
On peut employer ce mot-là à défaut d'autres, oui.
Voilà, donc non, on a une gauche qui est responsable, qui est raisonnable et même peut-être parfois un peu trop. Et on est peut-être même un peu trop gentil vu la situation, en vrai.
Mais il faut trouver des voilà, le plus grand dénominateur commun. Voilà,
Bien sûr.
Parlons un peu des perspectives. Je lisais un article dans la presse locale, notamment sur la rentrée de LFI qui s'inscrit en campagne permanente. C'était le mot que j'ai repéré dans la presse. Ça veut dire que à la fois pour les législatives, on se tient prêt, et aussi vous êtes à gauche dans le NFP, le seul parti qui maintient son espoir assez concret de voir Emmanuel Macron démissionner du poste de la présidence de la République, être destitué.
En 2017 et en 2022, on a fait campagne sur la base d'un programme qui s'appelle L'Avenir en commun. Mmh. Et il y a deux jours, on vient d'en présenter le renouvellement, l'actualisation.
Ouais, une actualisation, j'ai vu.
Voilà, l'actualisation. Et donc, en fait, quand on dit qu'on est en campagne permanente, ça veut dire que le programme est en campagne permanente et qu'on n'a pas de... On n'est pas dans une... Dire qu'on est en campagne permanente, c'est comme si on disait qu'on n'y était pas. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas une stratégie électoraliste où 15 jours avant l'élection, on ressort un programme qui a été conçu par une agence de communication et qu'on met sur un coin de table. Voilà. Donc, c'est pas ça. Donc, en fait, ce que les copains ont voulu dire, c'est qu'on avait un programme, qu'on le défendait. Et ça nous amène à être toujours prêts. Mmh. C'est-à-dire, si les élections ont lieu maintenant, on est prêts. Et c'est vrai que nous, par rapport à d'autres, peut-être autour de la table, on pense que la seule solution, puisque c'est Macron le responsable du chaos, parce que c'est l'auteur de la dissolution, et quand il perd les élections, il entend « j'ai gagné ». Donc ça, c'est comme en 2005, quand les Français se sont exprimés contre le traité européen, ils ont entendu que les Français s'étaient exprimés pour. C'est ça la responsabilité profonde du chaos. Donc quand on est face à cette situation, la seule solution, c'est que le responsable du chaos s'en aille. Donc nous, on souhaite... imaginez, il lui reste 30 mois, heureusement. Ça serait catastrophique. Mais ça en fait, 30 mois avec lui, pour les Français, c'est comme 30 ans. Hein, donc, 30 mois à un gouvernement tous les deux mois, il doit avoir 10 gouvernements pour les 30 mois qui restent. Donc ça, c'est pas tenable. Mmh. Personne ne voudra plus y aller. Je pense que là, il a eu déjà du mal, à moins si, grâce à Bayrou, Zemmour rentre dans le gouvernement. Je ne sais pas, un truc comme ça. Donc la seule solution, c'est le départ de Macron. Et nous, on assume cette position-là.
Au niveau des autres partis, je me tourne vers Florent pour les Verts. Est-ce que des législatives, alors voilà, en juillet, ça, c'est peu probable. Est-ce qu'elles le sont en septembre peut-être pas, mais en tout cas, elles ne se tiendraient vraisemblablement pas dans l'été. Est-ce qu'on se tient prêt aussi? Est-ce que c'est la seule solution?
On travaille aux élections qui sont déclarées.
Ouais.
Et les élections déclarées, ce sont les élections locales. Et on pense que là, il y a un enjeu absolument important sur ces élections. Mm-hmm. Après, il peut nous tomber sur la tête, effectivement, on a dit, hein, l'instabilité, elle n'est pas du côté de la gauche, elle est du côté du gouvernement et principalement du président de la République. Donc son instabilité peut le conduire à faire n'importe quoi. Et on assumera dans ces cas-là, comme on a assumé par le passé, et qu'on a su réagir, y compris dans les urgences. Mais aujourd'hui, les élections à venir sont des élections locales et on commence à travailler à ces élections locales.
Porté au niveau des Verts, notamment par une bonne dynamique, notamment dans les grandes villes. Donc, votre objectif situe plutôt là. Très bien. Le PC, les législatives.
Oui, alors, bon, nous, on n'est pas en campagne permanente depuis notre dernier programme. On est en campagne permanente depuis 1920, depuis notre formation. ça veut dire quoi, être en campagne permanente? C'est pas... nous, on le situe pas... si je dis ça sur le ton de la blague, c'est que on le situe pas juste sur la perspective des élections. Les élections, a priori, c'est possible qu'il y en ait cette année, s'il y a dissolution, s'il y a démission, s'il y a on ne sait quoi. Il y a des perspectives d'élections locales, mais là, qui sont plutôt sur l'année prochaine, ça va arriver vite. Mais globalement, il y a aussi un enjeu de taille qui est au niveau des luttes sociales qui sont capables de se construire dans ce pays, de la réaction face aux politiques gouvernementales qu'on a actuellement, ou face à l'extrême droite. Donc campagne permanente, oui, sur tous ces aspects-là, à la fois sur les échéances qu'il y aura et sur les échéances institutionnelles qu'il y aura, mais aussi avant tout sur la possibilité de construire des luttes, qu'elles soient nationales ou locales. Comme dit Florent, il y aura des perspectives locales aussi d'élections et on pense que c'est aussi sur ces échéances locales qu'on peut avoir, déjà nous en tant que force locale, plus d'impact évidemment, mais même de manière globale, qu'on peut bâtir et qu'on peut continuer à construire des cadres d'union et des cadres unitaires. Des cadres unitaires pas que avec les forces politiques, avec les forces syndicales, avec les forces associatives, etc. Pour les élections et comme je le disais aussi pour le reste, parce que... cette année, par exemple, on a pu voir au moment de l'affaire Poulain que les décisions gouvernementales et les décisions du système capitaliste dans lequel on se trouve, c'est pas juste des choses qui passent sur la chaîne parlementaire avec des engueulades et des bons mots ou des mauvais mots de Monsieur Bayrou sur des tribunes. C'est des choses qui ont un impact concret sur la vie des gens avec... des fermetures de boîtes, avec un pays qui est de plus en plus, qui continue sa désindustrialisation en permanence, avec des catastrophes écologiques,
pense à la
des
Bretagne.
Conséquences. Je sais pas si, mais en tout cas, on voit que les conséquences changement climatique, en tout cas, sont de plus en plus visibles, puisque M. Bayrou veut parler d'immigration et de déséquilibre du monde avec ses mots à lui. On voit qu'au niveau de l'international, au niveau des relations entre les pays occidentaux et les pays du Sud, les situations sont catastrophiques. Tout ça, ça a des conséquences concrètes. C'est pas juste une affaire de mots, d'alliances politiques et de petites phrases. Donc les constructions, elles sont à faire sur toutes les échéances possibles électorales, mais elles sont aussi, de manière générale, à construire.
On va terminer sur une note positive. il me semble, vous allez le confirmer, la vidéo de Blast que, donc, dont je vous ai fait écouter un extrait concluait que ce qu'il se passe à gauche ne se passe pas ailleurs en politique, ce qui serait une bonne chose démocratique et idéologique. Est-ce qu'on peut de fait se réjouir que les dissensions soient aussi un terrain fertile à l'avancée, aux négociations à l'intérieur d'une coalition comme celle du NFP?
Ce pour quoi on peut se réjouir, je crois, c'est que la gauche est vivante, qu'elle travaille, qu'elle a évidemment des divergences parfois, etc., mais qu'elle est vivante. Quand on regarde le reste de la... du paysage politique français.
Et des autres partis et des blocs, oui.
On ne peut pas en dire toujours autant. Mm. Donc oui, la gauche vit, elle existe, elle construit, et encore une fois, elle construit pour changer la vie des gens le plus vite possible.
Une réaction, Lola.
L'idée, ce serait peut-être aussi, au-delà d'être en campagne permanente, parce que ça doit être épuisant. Nos combats, nos valeurs, on les porte évidemment, mais on peut aussi les porter sur le terrain. L'idée, c'est pas de faire un concours. C'est un peu le début de ce qui se passait tout à l'heure, mais on peut s'engager dans les associations, justement. Il y a des personnes qui en ont besoin. Les associations, ce sont souvent aussi donc des structures qui sont tenues par des personnes qui sont retraitées. Donc qui ont du temps, mais qui ont aussi besoin de forces vives, de ressources. Et c'est ça aussi, être militant politique. Et pas seulement faire de la politique sur les réseaux sociaux. Notamment à l'heure de la désinformation. Et on pourra peut-être en reparler une prochaine fois. Mais donc oui, on a justement cette vitalité, et notamment aussi dans les organisations de jeunesse. Que ce soit chez les jeunes communistes, chez les jeunes socialistes, chez les jeunes écolos. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui sur la section du 41 ou... en tout cas peut-être plus à Vendôme qu'à Blois, mais voilà, sur les jeunes insoumis, je ne sais pas non plus, mais en tout cas, chez les jeunes socialistes, nous, on a envie de continuer de proposer et de créer, et on sera à même notamment de proposer des choses dans les mois à venir.
C'est un point important, parce que là, on a l'impression de débats d'experts ou même des fois de débats en haut des structures politiques, et je pense que beaucoup de gens voient la politique alors là en l'occurrence à gauche comme juste une affaire de bons mots et de prise de position entre des chefs de parti. Les structures politiques, c'est avant tout des structures de militants, de bénévoles, de gens qui discutent à la fois entre eux dans leurs organisations et avec ceux des autres orgas. On est un peu... il faudrait aussi que la situation du pays crée un électrochoc chez plein de gens et qu'ils se disent, en fait, ces structures-là, elles sont aussi à eux. Ils peuvent y venir, on ne mord pas, au contraire. Et en fait, on a besoin de monde pour continuer à avoir des débats aussi riches que ce qu'on a actuellement, voire mieux.
Eh ben, oui.
Le débat vif, pour réagir à Blast, le débat vif, c'est nécessaire à la clarté. Donc nous, on est pour le débat vif, on n'est pas pour la confusion. Donc la confusion d'un conclave, par exemple, qui consiste à faire croire que le MEDEF et la CGT vont s'entendre sur les retraites, on n'est pas du tout pour ça. Donc on est pour le débat vif à l'intérieur du NFP. Et on est pour, parce que ça permet de clarifier les positions, puis ça permet sans doute de faire avancer certaines positions. Et puis on est aussi pour la conflictualité avec Macron. C'est pour ça qu'on s'est engagé sur un programme de rupture. Donc le débat vif, la conflictualité, ce ne sont pas des gros mots.
Responsabilité, rupture, j'ai bien noté les mots-clés de cet échange. Je vous laisse sur un petit mot pour réfléchir. J'ai trouvé dans le Libé de cette semaine, à 3 jours d'écart, un billet qui était titré « Pour le PS, faire tomber Bayrou serait un acte vain » et un autre, donc 3 jours avant, « Être de gauche et ne pas faire tomber le gouvernement Bayrou n'est plus tenable ». Donc on voit bien que tout ça est un équilibre bien subtil à gauche. Merci à tous. Donc je reprends mes notes pour présenter tout le monde. J'avais Lola Discord, donc pour les jeunes socialistes, Yvon Chéri pour les insoumis, Florent Gropart pour le EELV, les écologistes, les verts, et Johan Elbori pour le Parti communiste. Merci à tous les quatre d'être venus, c'était passionnant. Je ne doute pas que nous aurons l'occasion de vous faire revenir dans les prochains mois pour reparler de tout ça en fonction avec de plaisir. La situation politique. Et c'est notre rôle aussi de médias local d'inviter les structures locales à venir échanger. Nous sommes ravis de pouvoir offrir cette possibilité.
Merci à tous et à toutes.
À dans 40 secondes, nous sommes toujours en direct. C'est l'ami Christophe avec la Roxette. Merci à tous et à toutes de continuer à suivre Studio ZEF. Salut à tous et à toutes.